Dans la nature, ce ne sont pas les abeilles qui utilisent les plantes, mais ce sont les plantes qui ont évolué pour utiliser les abeilles. On dirait que l'État, il préfère voir nos jeunes fumer des produits sur lesquels on n'a aucun recul, plutôt que de simplement réguler et légaliser le marché du cannabis sur lequel on pourrait faire, l'État pourrait faire des milliards. Il n'existe à l'heure actuelle aucune étude qui démontre que le cannabis va produire de la schizophrénie. À l'heure actuelle, la répression, elle est beaucoup plus forte, elle se voit plus et elle impacte beaucoup plus la vie.
Parlons canin.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Je vous laisse avec un épisode incroyable. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Trainerby, un peu à l'américaine, ou Nicolas Trainerby, entraîneur d'abeilles. Vous allez découvrir pourquoi. On va parler d'apiculture et évidemment beaucoup de cannabis, de cannabis médical, de cannabis dans l'histoire. On va faire une parenthèse sur l'histoire du cannabis. On va parler aussi de légalisation, on va discuter un petit peu de certaines molécules de synthèse aussi. Sans plus d'introduction, je suis vraiment très fier de vous laisser avec cet épisode. Accrochez-vous bien, ça va très vite, ça part dans tous les sens. Profitez-en, mettez bien les écouteurs en place et profitez-en.
Eh bien, bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Nicolas, on me connaît beaucoup sous le nom de Nicolas Trainerby. J'ai 46 ans et je suis donc apiculteur, cannabiculteur. Je fais des conférences sur l'apiculture, le cannabis, en français, espagnol et anglais. L'apiculture et le cannabis, c'est des domaines dans lesquels j'ai un peu plus de 20 ans et 30 ans, respectivement 30 ans d'expérience. Je me suis beaucoup intéressé dans ma jeunesse à la biologie végétale et animale.
Ta jeunesse, t'es encore jeune.
Ah, 46 ans, je sais pas quel âge tu as, mais bon, je pense que t'es quand même un peu plus jeune que moi.
C'est possible, un tout petit peu.
Ouais, bah, c'est pour ça. Et moi, quand j'étais plus jeune, on va dire, quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans, je me suis vraiment intéressé, même plutôt à la symbiose, non. Je me suis intéressé beaucoup à la symbiose dans la nature. Ça a commencé très tôt. Tout ce qui était dans la nature m'a intéressé. Donc, ça a été même dès le collège, la symbiose, c'était vraiment la recherche que je faisais des recherches au niveau de la nature, c'était chercher des choses qui avaient un rapport avec une symbiose. Que ça se voyait, une symbiose dans le sol, une symbiose entre les animaux, une symbiose entre les insectes et les plantes. Enfin, c'était vraiment un domaine que j'avais en prédilection. Okay. Après, je me suis beaucoup intéressé évidemment à la phytothérapie, puisque ça découlait de source. Quand tu t'intéresses aux plantes, tu t'intéresses aussi bien à leurs bénéfices qu'elles vont pouvoir t'apporter, ou aussi bien la nocivité qu'elles peuvent avoir. Après, le cannabis, lui, ça a été différent. Je m'y suis intéressé très tôt pour son potentiel médical aussi, et parce que je suis atteint de deux syndromes, en fait. Je suis atteint d'une hyperactivité sévère et d'un syndrome des jambes sans repos, qui fait que bah je dors très peu. En moyenne, je dors 4 heures par nuit, guère plus. Et le cannabis, lui, m'a beaucoup aidé pour l'hyperactivité. Ça a été un... Comme je dis souvent aux gens, c'est comme avoir une vision troublée qui d'un seul coup se devient nette. Enfin, moi, c'est ça que ça m'a fait sur moi.
C'est comme quand on met des lunettes pour la première fois et qu'on se dit, en fait, j'ai toujours mal vu.
Ouais, exactement. Exactement.
Et le syndrome des jambes sans repos, je connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
Alors, habituellement, c'est une maladie qui touche beaucoup plus les femmes, mais d'accord. C'est une maladie qui te fait avoir une sensation, on va dire, de fourmillement, de brûlure dans les jambes, avec des micro-mouvements. Ça peut être des mouvements forts des jambes, la nuit par exemple, ou alors des micro-mouvements. Et ça me donne l'impression d'avoir simplement la jambe dans un four. Ça brûle. Oui, okay. Même si elle est froide, tu la touches, tu la sens comme froide, dans ta tête, elle est brûlante. Donc, faut bouger. Faut la bouger. Donc, tu bouges. Et la nuit, ton cerveau, c'est un problème de dopamine, hein, ni plus ni moins, hein, dans le cerveau. Il y a un problème de recaptation de la dopamine. Et donc, comme j'ai un problème de recaptation de la dopamine, ça me réveille. Et ça m'empêche de dormir.
Ok, donc tu me disais juste avant que tu dors très très peu.
Ouais. Et après, c'est vrai que ça m'a fait acquérir une expérience, surtout dans le domaine médical aussi, comme ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis fait vraiment une auto-formation dans divers domaines. Hein. J'ai fait des formations aussi médicales en Espagne. J'ai fait aussi des formations médicales avec l'Université de Santiago du Chili. Là-haut, j'ai eu une formation sur le cannabis médical vraiment formidable. On a eu la chance d'avoir des médecins, professeurs qui étaient comme Cristina Sanchez, qui est la biologiste moléculaire la meilleure au monde sur le cannabis.
Okay.
Ça a été vraiment une formation très très intéressante.
Après, je me forme. Quelle année ça?
Ça, c'était en 2000, que je raconte pas de bêtises, 21.
D'accord, ok. C'est vraiment super, Cristina Sanchez.
Après, je me forme beaucoup, c'est aussi avec les sites, grâce à des sites comme PubMed. PubMed, c'est le site mondial de référence des publications médicales, qui vont dans tous les domaines, évidemment, hein, mais c'est le site vraiment de référence. Et il y a un autre endroit aussi où il y a beaucoup, beaucoup de publications médicales qui concernent le cannabis, c'est le CCIC, c'est un consortium canadien qui travaille beaucoup avec l'université de McGill. McGill... C'est une université au Canada où ils avancent vraiment sur le cannabis aussi.
Ok, on le mettra en description. Je pense que ça va être une super source d'infos pour beaucoup de monde.
Le CCIC. Le CCIC au Canada, c'est à la base c'est parti d'une association basique, un peu comme le CIRC en France, typique. Hein, après, ça, ils sont passés beaucoup plus du côté médical. Ils ont été voir les universités et eux répertorient toutes les études qu'il y a au niveau mondial dans les universités. C'est-à-dire qu'ils répertorient aussi bien dès le début, avant même l'étude. C'est-à-dire que pour les prérequis, pour quand ils font simplement les prérequis pour faire les études et autres, les en cours, on a les premières observations avant même qu'il y ait les bilans complets. Donc ça permet d'avoir aussi son propre point de vue sans avoir une synthèse des choses.
On suit vraiment les
études en cours, quoi.
Trop cool, génial. Et ok, on va refaire deux trois pas en arrière pour reprendre le fil de l'histoire. Donc toi, en fait, donc très tôt. Tu avais une hyperactivité sévère, le syndrome des jambes douloureuses, c'est ça?
Syndrome des jambes sans repos, ça
s'appelle. Le syndrome des jambes sans repos, pardon.
Ouais.
Et donc, c'est dans le cannabis, en autoculture, automédicamentation?
Oui. C'est-à-dire que, pour faire simple, je vais t'expliquer. La première fois, ça s'est passé comme ça. C'est ma sœur qui m'a fait fumer parce qu'elle voulait que je reste tranquille, justement. Elle m'a fait fumer du cannabis. Elle est beaucoup plus âgée que moi, hein, ma sœur. Elle a 7 ans de plus que moi. Et elle fumait de temps en temps du hash. Hein, et j'étais tellement une pile électrique pour elle que elle m'a fait fumer. Et là, moi, ça a été vraiment la révélation. Ça a été la révélation à ce moment-là. Mais évidemment... à cette époque-là, je faisais pas le rapprochement en l'utilisant comme un médicament, puisque ça, je parle d'un âge, j'avais en dessous de 10 ans.
Ah oui, d'accord. Donc en effet,
j'avais en dessous de 10 ans. Après, par contre, donc sur l'âge de quand j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup beaucoup de problèmes à l'école et autres, je voyais que c'était l'hyperactivité. On m'a mis sous Ritaline. Hein. Ma mère m'a fait mettre sous Ritaline. Le Ritaline, c'est ce qu'on donne vraiment pour l'hyperactivité, mais c'est une amphétamine à la base. Donc c'est pas terrible.
Et au final, comment est-ce que tu as vécu ça après
Le Ritaline, je l'ai mal supporté, hein, de toute façon. Hein, c'est pareil, c'est une molécule que j'ai très mal supportée. Donc, je l'ai arrêté très vite et vers l'âge de 14 ans, là, je me suis mis à fumer moi-même, de moi-même, pour me calmer, on va dire. Ça me calmait énormément. Okay.
Donc, mais c'était pas du tout pour briser c'était... l'interdit, c'était pas du tout pour faire le grand. C'était déjà à l'époque, tu sentais que ça te faisait du bien et que.
Ah oui, alors je vais être honnête, hein, j'aimais l'effet aussi euphorisant, hein, je vais pas cracher dessus, hein, du tout. Mais l'effet focalisant, on va dire, qui me permettait de me focaliser bien, d'être posé, on va dire, ça, je l'ai vraiment découvert avec le cannabis. Avant, pour moi, c'était, ça partait toujours dans tous les sens, mais à une vitesse folle. Déjà, même là, à l'heure actuelle, quand j'arrive, j'ai du mal à me poser, on va dire. Et pourtant, je fume encore beaucoup, j'ai 46 ans. Mais quand je vois quand j'étais jeune, j'étais intenable. C'était incroyable.
Et donc, du coup, comment se fait le lien, j'imagine, à l'adolescence, entre le cannabis, le fait que ça te fasse te sentir mieux, et comment est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, OK, bah, en fait, je sais que ça marche pour moi. Je sais que c'est interdit, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Je vais bien le faire.
Ouais, bien le faire. Alors, au début, je le faisais bien, oui et non, puisque j'avais ce côté où je consommais uniquement le soir pour pouvoir dormir, essayer de dormir correctement. À l'école, j'osais pas. J'osais pas à l'école. C'est-à-dire que j'avais gardé ce tabou très très fort, hein. Je l'ai eu très très longtemps, hein, ce tabou aussi, hein, où je fumais en cachette avec les copains. Oui, c'était pas, je savais que ça me faisait du bien, mais comme c'était interdit, il y avait ce côté c'est interdit, je ne peux pas. J'ai même eu une période vers l'âge de 16 ans, on va dire, où j'ai arrêté totalement de fumer pendant plusieurs mois. Ça a été infernal. Je savais que ça me calmait. Je savais que, mais pour moi, j'avais ce côté, oui, interdit, tabou, qui était très présent.
Ok. Et alors, les abeilles, comment ça arrive là-dedans?
Ah, alors ça, c'est autre chose.
Parce que moi, du coup, je le sais parce que je regarde ce que tu fais. Mais pour ceux qui ne savent pas, ce surnom, ce pseudo de Trainer Bees à l'américaine, ce surnom de Trainer Bee. Pourquoi est-ce que tu te l'es choisi et qu'est-ce que tu fais un peu aujourd'hui avec les abeilles?
Alors ça, c'est un peu spécifique, mais bon, on va partir du début dans ce cas-là.
Vas-y, je suis avec toi.
Si tu préfères, j'ai débuté très tôt à m'intéresser aux abeilles. J'ai eu l'avantage d'avoir un père qui était très, très basé sur la nature. Et j'allais aux champignons régulièrement. Il m'instruisait vraiment sur les champignons. Il m'instruisait sur tous les arbres en permanence, sur les fruits, les légumes. Enfin, l'amour de la nature, l'amour de l'observation, ouais, surtout de la nature. Et très, très jeune, dès l'âge de 4-5 ans, j'ai commencé à m'intéresser vers mes... Je me rappelle, puisqu'on a déménagé beaucoup étant jeune, donc j'ai ce souvenir d'endroits, grâce aux endroits où on était. Et mes premiers souvenirs, par exemple, si je te donne mon tout premier souvenir de ma vie, je devais avoir 3 ans, j'étais dans un bain et on m'a mis un escargot à côté de moi. C'est mon tout premier souvenir.
Génial, il y a un escargot dans ton premier souvenir.
C'est ça. C'est mon tout premier souvenir, c'est ça. Et c'est pas possible que ça soit autrement. Quand je décris l'endroit à ma mère, c'était le seul endroit où on a vécu. Après 3 ans, arrivé à 4 ans, avant 4 ans, on a déménagé et c'était à cet endroit-là, quoi. Et donc, c'est vrai que je me suis intéressé très, très tôt à tout ce qui était à la nature. Alors, plus particulièrement tout ce qui a été les insectes sociaux, les fourmis, même les araignées sociales qui peuvent exister. On a des types d'araignées qui vivent en groupes assez énormes, qui font des toiles, okay, même nous dans notre région, dans nos régions d'Europe, hein. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment attiré. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un verger dans lequel on a eu un essaim qui est venu s'installer. Alors ça, le verger, je devais avoir 6-7 ans, je pense. Et je passais mes journées devant les abeilles, devant elles. Alors, il y a des fois, je m'approchais un peu trop près. À l'époque, je savais évidemment pas ce qui les dérangeait. Je savais pas que c'était... Par exemple, je mettais ma bouche près, même pour sentir l'odeur, près du trou qu'il y avait. Et là, elle sortait, elle me piquait. Mais bon, c'était parce que je comprenais encore pas comment ça fonctionnait. Mais je passais des heures et des heures devant cet essaim. Et ça m'a toujours attiré, que ça soit tous les insectes qui sont, tous les hyménoptères en fait, on peut dire. Les hyménoptères et principalement ceux qui vivent en groupe social, comme les fourmis, okay, les abeilles et les guêpes. Après, il faut pas oublier une chose, c'est qu'on en a vraiment besoin. Les abeilles et les pollinisateurs sont indispensables pour nous. tout ce qu'on mange, enfin tout ce qu'on mange, non, près de 70% de ce que tu peux voir dans un étal de supermarché est là grâce aux pollinisateurs. Le jour où ils disparaissent, on disparaît en quelques années. Ça, c'est officiel, c'est reconnu. Si les abeilles et autres pollinisateurs disparaissent, nous n'avons plus que 3 ans devant nous. Il existe en Chine, par exemple, un endroit où il y a quelques années, ils ont essayé de polliniser. Enfin, ils ont essayé, non, ils sont obligés d'utiliser l'humain pour polliniser. Parce qu'ils ont détruit les abeilles à cause du temps de Mao. Ils ont mis des insecticides pour tuer les oiseaux qui mangeaient les récoltes. Et donc, comme les oiseaux mangeaient les récoltes, ils ont mis cet insecticide qui a tué aussi les abeilles. Donc maintenant, dans le nord de la Chine, ils sont obligés de ramener le pollen du sud pour féconder les fleurs de pommes. Et ils le font à la main. Parce qu'ils n'ont aucun autre moyen. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au final, le fait de polliniser à la main, ou de polliniser autrement que par un insecte pollinisateur, les fruits ne sont pas du tout pareils. Puisqu'il se passe une chose, au moment où l'abeille va sur une fleur récoltée du nectar, elle va avoir le pollen qui va se retrouver sur elle, elle va le récolter pour en faire une pelote, et les quelques grains qui vont rester sur elle, ce sont ceux qui vont polliniser. Mais s'ils restent sur elle, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a aussi une force électrostatique sur ces grains-là, bien particuliers, qui sont de meilleure qualité. Et c'est pour ça que quand les abeilles pollinisent, c'est de meilleure qualité, tout simplement.
Il y a une sélection qui est faite à ce niveau-là, incroyable.
Oui, oui, au niveau des poils, il reste seulement... l'abeille joue beaucoup avec les champs électrostatiques. Hein, c'est-à-dire que quand elle s'approche rien que d'une fleur, elle va... Bon, elle n'a pas la même vision que nous. Hein, quand nous, on voit une fleur jaune, elle la voit... Il faut savoir qu'elle la voit de plein de couleurs différentes. Hein, elle la voit violette, jaune, verte en même temps. Enfin, la plupart des fleurs sont multicolores. Alors que nous, on les voit seulement d'une seule couleur, blanche, jaune.
Alors, attends, Nicolas, on va revenir sur les abeilles. Mais juste, en fait, pour ceux du coup qui nous écoutent et... Donc, il faut quand même préciser que toi aujourd'hui et depuis quelques années, donc tu es apiculteur et tu travailles avec les abeilles et le cannabis.
Oui.
Je te laisse en parler. Mais c'est, en fait, sinon, les gens qui nous écoutent ne comprennent pas bien.
Oui, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu fais avec les abeilles et le cannabis aujourd'hui?
C'est parce que en gros, comme je t'ai dit, je suis un peu, j'adore apprendre les choses, j'adore chercher les choses. Une phrase que j'adore, c'est chercher les causes avant de trouver des solutions. Et donc, ça m'a fait apprendre énormément de choses. Et comme j'aimais le cannabis et l'apiculture, c'était deux domaines que j'adorais. L'apiculture, j'ai fait des tests à tout va. J'ai réussi à un moment à découvrir comment faire en sorte que les abeilles aillent sur n'importe quelle source à la base de sucre. Je dis bien à la base de sucre. Ça, c'était dans les années, si mes souvenirs sont bons, 2006, 2007, hein, on va dire, à peu près. Et quand j'ai compris, j'ai fait du miel rouge, qui était un miel qui était totalement rouge de cerises. J'ai pillé les cerisiers des voisins. Enfin, mes abeilles ont été pillées les cerisiers des voisins, on va dire.
Ça veut dire que tu es arrivé, en fait, à travailler avec tes abeilles pour qu'elles aillent butiner qu'une seule type de plante, c'est ça?
Oui, alors 90% font le travail que je fais après l'entraînement, on va dire, la phase d'entraînement. 90% des abeilles font, on va dire, ce que je veux. Il y en a toujours un peu, évidemment, hein, qui vont pas aller faire ce qu'on veut, ça c'est normal. Hein. Et heureusement qu'il y a des abeilles libres, comme nous.
C'est vrai.
Et donc après, au fur et à mesure des années, évidemment, le cannabis, lui, n'est pas mellifère, c'est-à-dire qu'il produit pas de sucre. C'est pour ça, à la base, que normalement, il est impossible de faire du miel, un miel véritable de cannabis.
C'est bon de le rappeler.
Ah oui, 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 oui. Mais il ne faut pas oublier une chose. Les abeilles, elles ne font pas que le miel. Elles ont plusieurs ressources. Elles vont utiliser le nectar, le pollen, et elles vont aussi faire ce qu'on appelle le propolis. Alors le propolis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une résine que les abeilles vont récolter sur différents arbres et mélanger à leurs enzymes. Ces enzymes, cette propolis, va devenir antifongique, antibactérienne, antiseptique, et les abeilles vont l'utiliser à l'intérieur de la ruche, car elles ont un système immunitaire qui est, autant dire, nul. Donc, ça leur permet, dans la ruche, de se défendre des bactéries, des virus et autres. Et ayant cette faculté d'aller chercher la propolis, j'ai, après quelques années d'autres d'entraînement, d'essais, réussi à faire en sorte qu'elles aillent chercher la résine du cannabis et qu'elles l'utilisent à la base sous forme de propolis dans la ruche. Et c'est après, après avoir fait une sélection aussi d'abeilles, de variétés bien spécifiques d'Apis mellifera, d'abeilles communes, mais des souches bien spécifiques, qui me font de la propolis, qui vont me mettre de la propolis partout dans la ruche, même sur le bord des alvéoles. Ce qui fait que quand elles vont aller après chercher du nectar de fleurs pour le transformer en miel, quand elles vont le mettre dans ses alvéoles, au moment où elles vont le sécher, le réingurgiter, le mélanger avec leurs enzymes, il va naturellement infuser et ça deviendra là, oui, un miel de cannabis, on va dire.
J'adore, donc, voilà aussi. J'adore tout ça. J'adore le pourquoi procédé, j'adore la passion qui... rien qu'avec la voix... On sent la passion du type qui a passé des années, qui a fait ce taf de sélection, d'observation et de
d'amélioration. Tu sais,
incroyable, j'adore.
Même si je suis hyperactif, t'arrives, enfin, je vais faire 1000 trucs dans la journée, on va dire. Vu que je peux pas me poser sur un seul pendant des heures, je vais en faire 1000, mais je vais revenir dessus. J'ai une très bonne mémoire grâce à ça aussi, puisque même si on a beau dire que le cannabis fait oublier énormément de choses, ça, je suis d'accord que ça le fait pour beaucoup de gens, mais j'ai cette chance-là que moi, ça le fait pas, et pour l'instant. Et donc, je me rappelle énormément une autre chose. Je suis obligé de revenir sans arrêt sur des choses que j'ai fait, que j'ai commencé dans un moment. C'est le cycle de ma vie. Ça. Commencer des choses pour les reprendre après, parce que je sais que je peux pas réussir à être focalisé trop de temps.
Eh bien, écoute, dans ce cas, on va revenir sur un truc que tu as dit. Oui. Donc du coup, quel est l'intérêt d'une abeille à aller sur du chanvre, à aller sur du cannabis, si alors, à la base, elles y vont pas pour le nectar?
Non, alors normalement, les abeilles ne vont sur le cannabis naturellement que pour une seule chose. Elles vont aller naturellement sur le cannabis ou le chanvre uniquement pour les fleurs mâles, puisque le mâle, lui, produit du pollen.
Ouais, ouais.
Et les abeilles vont utiliser le pollen dans la ruche. Le pollen, c'est un... Tiens, si tu veux, on va parler 2-3 minutes des produits de l'apiculture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir, et c'est énorme. Quand je vois un peu le nombre de miel frelaté qu'on a dans le commerce, faut savoir qu'il y a eu une étude là qui est parue il y a très peu de temps. Ils ont été prendre au hasard des miels de supermarchés et de marchés. C'est-à-dire, normalement, un endroit où on est censé avoir quand même plus de miel de vrai, on va dire, de bonne qualité. Ils se sont rendus compte qu'en fait, plus de 40% des miels sont faux. Donc, c'est-à-dire, énorme.
C'est-à-dire faux. C'est du sirop. Alors, avec...
Il est très simple de faire du miel, en fait, faux. Il est très simple de faire un miel faux, puisqu'on s'est rendu compte, les chimistes ont réussi à fabriquer ce qu'on appelle l'enzyme principale de l'abeille. Donc, il suffit d'acheter du glucose, du fructose, puisque il faut pas oublier une chose, le miel est fait de glucose et de fructose. C'est pour ça que c'est un sucre qui est meilleur pour la santé que le sucre blanc. Le sucre blanc, c'est du saccharose, c'est la pire saloperie, ça nourrit les cancers, c'est une vraie saloperie, le saccharose, hein, le sucre blanc. Alors que le miel, c'est un mélange de fructose et glucose. Donc, c'est totalement différent.
Ok. Et donc, le faux miel, en fait, c'est fait dans une grande bassine, on met
tout simplement du fructose, du glucose, on met 18% d'eau, comme dans le miel, on va mettre des enzymes d'abeilles, et puis on va mettre même un petit peu de pollen dedans, on fait chauffer ça à 40 degrés, et puis ça fait un miel, mais qui n'a jamais vu la couleur d'une abeille, qui n'a pas les mêmes propriétés que va avoir le miel, puisque chaque miel, quand on parle de miel, on va dire monofloral, un miel, quand on retrouve un miel qui est pratiquement que d'une source d'une fleur, un miel de lavande par exemple, un miel de thym. Je vais donner l'exemple du miel de thym. Le miel de thym, c'est un miel qui est reconnu pour les brûlures, c'est-à-dire qu'il est utilisé à Bordeaux, à l'hôpital de Bordeaux, pour les grands brûlés. On utilise le miel de thym pour cicatriser les brûlures.
Incroyable, je ne savais pas ça, que c'était fait aussi.
Le miel, n'importe qui se brûle. Moi, j'avais mis sur ma page il y a 3-4 ans de ça. Ma femme, elle s'était brûlée la cuisse avec un plat d'huile bouillante. Premier, deuxième et troisième degré. J'ai mis les photos de l'évolution, justement, on voit les premiers, deuxième et troisième degrés. Elle s'est soignée uniquement au CBD et uniquement au miel. Uniquement. On n'a pas été chez le médecin ni rien, et il y a une empreinte au troisième degré. Et en 6 mois, il n'y avait plus rien. Quand je dis plus rien, c'était très léger la trace blanche qu'il y avait au bout de 6 mois. Et là, un an après, on a refait des photos, on voyait plus du tout le monde, c'était par contre. Hein. Bon, après, elle a quand même mis une crème que je lui ai faite aussi à base de cana aussi pour régénérer la peau.
Ok. Bon,
pour en revenir.
Donc, on était sur les produits de la roche.
Donc, les produits de la roche. Donc, comme je disais, le miel qui, lui, a des propriétés formidables. Chaque miel va avoir des propriétés formidables. Le pollen, c'est une source, on a tendance à l'oublier, mais le pollen d'abeille, c'est une source de vitamines et minéraux formidables. Il suffit de prendre 3 petits grains de pollen et t'as autant de vitamines que dans une pomme.
Mais qu'est-ce que c'est le pollen d'abeille?
Alors, ça se vend souvent sous forme de petites boules. Ça fait des petites boules de couleur, souvent jaune, orange, un peu de couleurs différentes. C'est suivant ce qu'elles vont aller visiter comme fleurs. C'est le pollen, c'est quand elles vont aller donc rechercher le nectar, automatiquement, il ne faut pas oublier une chose. Dans la nature, ce ne sont pas les abeilles qui utilisent les plantes, mais ce sont les plantes qui ont évolué pour utiliser les abeilles. C'est-à-dire qu'elles ne produisent du nectar, les plantes, que pour attirer l'abeille. D'accord. Le but de la plante, c'est que l'abeille reparte avec du pollen pour aller féconder une autre fleur. Eh ouais, la nature est bien faite. L'abeille n'est qu'utilisée par la nature. Elle a été utilisée par les plantes, en quelque sorte.
Et du coup, une question bien, là, je repense au miel de thym. Donc en fait, oui. Du coup, selon sur quelle plante l'abeille va, on retrouve dans les produits de la ruche certaines propriétés. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand une abeille va aller butiner, ou en tout cas va aller sur du cannabis?
Alors, après que j'ai réussi à faire l'entraînement et les faire aller dessus, les premières fois où j'ai fait les premières analyses, puisque dès le début, je me suis dit, il faut que je fasse une analyse. Je voyais l'intérieur de la ruche qui était légèrement verdâtre, puisqu'au début, je faisais une erreur que je fais plus maintenant, mais je les laissais beaucoup trop longtemps, les plantes. Donc, arrivé à un moment, elles prenaient de la résine et même des morceaux de végétal, on va dire, de plantes.
Okay.
Donc, je me retrouvais dans la ruche, il y avait aussi du végétal. Donc, tout de suite, je le voyais dès que ça se mettait à marcher. Du jour au lendemain. Et donc, quand j'ai commencé à voir que ça marchait, c'est là qu'après, il m'a fallu quand même encore une paire d'années de sélection d'abeilles pour avoir vraiment une souche que j'ai découverte, qui me propolisait donc partout, qui mettait de la propolis partout dans la ruche. À ce moment-là, quand j'ai retiré le miel, que j'ai vu que le miel tout de suite devenait blanc, c'est-à-dire que normalement, quand elles mettent du nectar, le nectar reste translucide et il va un peu jaunir, on va dire, devenir couleur miel, et c'est tout. Et après, elles vont refermer, on va dire, avec de la cire dès qu'il est mature. Mais là, dès le début, je le voyais qui devenait le nectar devenait blanc. Oh, je me suis dit, à tous les coups, ça infuse. Alors, le pourquoi du comment, il y a l'histoire des enzymes qui influent sur les cannabinoïdes, qui fait que ça doit casser les cannabinoïdes et qui permet d'avoir une fraction qui rentre dans le miel. Toujours est-il qu'à la fin, le miel, on a entre 0, le plus bas que j'ai eu jusqu'à maintenant, ça a été 0,3% de THC et THCA. Et le plus que j'ai eu, on est monté jusqu'à 1,5% uniquement en THC décarboxylé. Puisque le fait que le processus dure 3 semaines, dans une ruche, il fait plus de 37 degrés.
Ah, génial,
donc,
ok.
3 semaines à plus de 37 degrés, ça décarboxyle une partie des cannabinoïdes. Ce qui fait que le miel, qui lui contient donc les cannabinoïdes de la plante fraîche, sont en partie décarboxylés.
Incroyable, ok.
Et c'est ce qui fait que le goût du miel reste le goût parfait de la plante fraîche, avec l'effet. Il existe évidemment. Alors, quand ça a commencé à se savoir un peu à travers le monde, ça a relancé aussi la mode des édibles au miel. Hein. Les gens se sont amusés à faire des miels au cannabis un peu partout. Et j'ai eu l'occasion d'en goûter, je peux dire, des centaines. Et le problème, c'est que comme les gens, s'ils veulent que leur cannabis il soit décarboxylé, ils sont obligés de le passer au four ou autre. Ça donne un sale goût au miel. Moi, je trouve que ça donne un sale goût au miel.
Ok, incroyable.
Et c'est ce
et
que
donc,
tout le
en
monde
fait.
dit du mien comparé au miel, on va dire, qui se trouve en général.
Et donc, toi, tu arrives à faire du miel, de la propolis, du propolis, pardon.
Oui, alors la propolis, je l'extrais rarement. J'en ai extrait un peu au démarrage, puisque elle me la mélange aussi avec, sur les cadres, elle me la mélange avec la propolis qui existait déjà. Au moment où je suis pour faire le miel, il faut savoir que j'arrive à récolter seulement quelques kilos. Hein. Je suis obligé de le faire à une époque bien spécifique, pour des raisons bien spécifiques aussi que je peux pas expliquer non plus. mais bref, au moment où je peux le faire, pour faire simple, elles vont me sortir que 2 à 4 kilos de miel, on va dire. Le plus que j'ai eu, c'est une fois, ça a été 5. Donc, c'est rien. En sachant qu'elles vont me détruire l'équivalent de 5 plantes qui vont faire 1,50 m.
Ok, 5 kilos de miel pour 5
plantes. 5 plantes qui vont être complètement détruites. Hein. À la fin, je peux rien en faire, hein, puisque elles arrachent et qu'elles passent, il y a un moment, il y a des bactéries qui se mettent, des moisissures et des champignons se développent. Donc, je suis obligé même de changer des plantes. Quand le processus met un peu plus de temps, qu'il fait des mauvais temps, il m'est déjà arrivé de changer de plante, de arracher, de ressortir d'autres plantes en urgence à des endroits, d'aller voir des amis qu'on avait qui étaient en fleurs.
Et les plants de cannabis de l'année 2022 te sont utiles pour l'année 2023 et 2024?
Je vois pas ce que tu veux dire, parce qu'ils sont détruits. Hein, quand la plante, elle me la détruise, hein, je peux rien en refaire. Hein,
je pensais qu'ils abîmaient la fleur. Je pensais pas qu'ils détruisaient
Dès que tu vas avoir le botrytis, dès que tu as des maladies qui sont induites dans la plante, ça sert plus à rien. Tu sais, ça va amener le botrytis, ça va amener tout un tas de bactéries. C'est pas la peine. Hein, étant donné que généralement quand je fais ça, j'essaye de le faire le plus naturellement possible dehors, complètement avec des plantes qui sont en terre. Elles sont en terre, donc elles font leur cycle naturel, et donc elles vont pas refleurir. Je vais pas les arracher, les passer 24 heures sous lumière, enfin les faire revégéter et autres.
Ok, non, mais ok. Et quand tu dis que tu peux pas le dire, c'est parce que c'est ton secret de fabrication ou c'est...
Alors oui, je peux pas expliquer tout. Comme je dis souvent aux gens, à l'heure actuelle, je suis pas le seul hein, maintenant. Hein. Il y a d'autres entreprises qui ont trouvé. Il y a une entreprise en Israël, Phytopharma. Il y a quelqu'un aussi en Amérique du Sud. Et puis on m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi au Canada, d'après ce que j'ai compris, qui a trouvé comment faire. Bon, alors de tous ceux qui ont trouvé comment faire, il y en a deux qui auraient trouvé à peu près la même technique que moi, d'après ce que j'ai compris. Phytopharma, par contre, eux, ils ont trouvé la version industrielle. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va nourrir directement à l'intérieur des ruches, ce qui fait qu'ils arrivent à produire, ils arrivent à produire énormément, quoi.
Oui, mais c'est en version usine où il y a des mangeoires dans lesquelles les abeilles viennent manger.
C'est de l'isolat de CBD qu'elles ont à manger. C'est pas, elles vont pas sur la plante, hein, ça n'a rien à voir. Pour l'instant, sur les plantes, alors attention, sur les plantes en direct, a priori, je suis le seul.
Ok.
C'est-à-dire que même la personne au Canada et la personne en Amérique du Sud, ils utilisent ce qu'on appelle des cadres nourrisseurs et ils vont utiliser des full spectrum, des résines full spectrum et autres, et des extractions qui vont réussir à avoir trouvé un moyen à leur donner qu'elles le prennent et qu'elles l'utilisent.
Et alors du coup, tu disais tout à l'heure que tu avais fait des tests sur les miels. Oui. Quel test t'as fait et est-ce que t'as pu avoir des échanges, voir si le fait que les abeilles aillent sur la fleur directement, ça change le résultat à l'intérieur? J'imagine que oui, mais est-ce que tu as des infos là-dessus?
Alors, au niveau, si on prend le miel en lui-même, on a juste un taux de graisse qui est un peu plus élevé.
D'accord.
Qui est dû à la résine, hein, qui sont des corps gras. Hein, au lieu de passer de 0,1, on passe à 0,2, un truc comme ça. C'est le seul changement que j'ai vu. Au niveau des terpènes, évidemment, il y a un changement phénoménal. Puisque on va retrouver par contre un truc qui est une petite parenthèse qui est assez phénoménale, c'est que un des terpènes, donc c'est les odeurs qu'on va retrouver partout, hein, que ce soit l'odeur du cannabis ou n'importe quelle odeur, on va dire, on peut appeler ça un terpène. Pour ce qui est des terpènes du cannabis, un des premiers qui se forme, c'est l'ocimène. Et l'ocimène, c'est un des terpènes les plus importants de la ruche.
Comme quoi les choses sont bien faites.
Voilà. Donc évidemment, quand on prend l'analyse du miel, on retrouve un taux d'ocimène très élevé. Et puis après, ça va dépendre de la variété qui va être utilisée. Hein. Aussi bien de la variété que moi je vais utiliser, que des plantes que les abeilles vont aller aussi butiner après. J'ai remarqué par exemple que la meilleure combinaison, c'est quand j'arrivais. Il y a deux époques dans l'année en réalité où je peux le faire. En France, hein, parce que là en Espagne, si je prends l'exemple de l'Espagne, il y a qu'un seul moment. Mais en France, j'arrivais à avoir un deuxième moment où je pouvais le faire, et ça me permettait d'avoir un miel de mûr, mais qui était donc fait, qui avait le cana. Et là, ça donnait vraiment que les parfums du cana, ça embellissait vraiment le cana. J'ai eu une année où, par contre, quand je suis plus donc au mois de septembre-octobre, elles étaient sur le lierre. Elles ont été chercher donc du nectar de lierre, et quand ça a infusé et autres, et le miel qui en est sorti, on ne sentait pratiquement pas la plante au goût, alors que par contre, au niveau de l'analyse, elle ressortait énormément au niveau des terpènes. Mais les analyses, après, pour ceux qui veulent, elles sont disponibles sur mes pages. Hein. Je les ai publiées déjà, que ce soit la page Facebook, la page Instagram, elles ont été publiées à chaque fois, de toute façon. Puisqu'il y a eu des gens, il y a eu, évidemment, au tout début, il y a eu beaucoup de gens qui pensaient que c'était faux, parce qu'il y a eu le raccourci de croire que les abeilles faisaient justement le miel directement avec les plantes. Alors, évidemment, c'est pas mellifère, donc ça peut pas faire de miel directement. On est obligé de passer par un système autre.
Après,
je te dis, des gens comme Phytopharma, eux, ils doivent utiliser de l'isolat de CBD qui est en nanoparticules. Ça leur permet de l'hydrolyser. Il est sous forme hydrolysable. Il peut être directement mis dans l'eau. Ça leur permet de nourrir les abeilles avec de l'eau au CBD. Quoi.
Ok. Donc le CBD se retrouvera dans le miel ou dans le...
Après, je peux pas dire quel procédé utilise, j'ai pas étudié. Je sais que c'est Phytopharma, c'est une des premières entreprises, par contre, en 2016, qui m'a contacté pour essayer d'avoir des infos sur moi. Avant, évidemment, que je découvre qu'ils ont lancé leur propre produit. Hein. Mmh. Eux, ils font ça en version industrielle. Quoi.
Et toi, qu'est-ce que tu veux en faire de ça? Parce que je comprends bien que, du coup, tu as des connaissances, une expertise et un... C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais un matériel unique,
ouais,
c'est-à-dire que les abeilles,
tu les as. C'est aussi avoir une bombe, pas une bombe entre les mains, mais presque. Parce que je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des moyens qu'elles produisent un peu plus, mais qui va aller au détriment de l'abeille. Ça ne me plaît pas, par exemple, donc je ne vais pas le mettre en place.
D'accord.
Donc, je vais donner un exemple. Il m'arrive de faire des extractions de venin d'abeille. Je fais l'extraction du venin d'abeille une par une, en prenant les abeilles, en prenant des papiers à fibre, de façon à ce que le dard ne reste pas accroché pour qu'elles ne perdent pas leur dard, pour qu'elles puissent repartir et que je récupère uniquement le venin. Il existe une méthode pour extraire le venin, c'est des plaques qu'on met dans la ruche. Ça électrifie les abeilles et ça en tue 10% de la ruche à peu près à chaque fois. Ça les dérange pas de faire. Moi, ça me dérange.
Mmh. Et qu'est-ce qu'on en fait du venin?
Et je sais que si je commence à donner toutes les infos, il y a les gens, ils vont vouloir produire des kilos et des kilos au détriment de l'abeille.
Et qu'est-ce qu'on en fait du venin d'abeille?
Ah, le venin, oh là là, les propriétés du venin, ouf, c'est infernal. c'est infernal, non, c'est incroyable toutes les propriétés du venin. Le venin, c'est anti-arthrosique, c'est un régulateur cardiaque, on l'utilise en apithérapie. L'apithérapie, c'est utiliser les ressources de l'abeille, on va dire, pour les bienfaits, pour notre bienfait, à nous, sur la santé. Et en apithérapie, on va utiliser les piqûres d'abeille, justement, pour l'arthrose, par exemple. Et c'est hyper efficace.
Je crois que j'avais vu ça, mais c'est des gens qui se piquent eux-mêmes avec des abeilles, du coup.
Il existe des centres d'apithérapie où des professionnels arrivent avec une petite grille. Ils mettent souvent une petite grille sur laquelle ça permet d'avoir. En fait, quand une abeille nous pique, elle a son dard. C'est pas juste une aiguille. C'est une aiguille, mais avec un petit ardillon comme un hameçon. Ce qui fait que quand elle essaye de retirer son dard, il reste accroché à la peau et donc elle meurt. Son abdomen s'arrache et elle meurt. Ça, elle en a conscience, l'abeille. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que les abeilles piquent pour un rien. Elles sont conscientes qu'elles vont mourir quand elles vont piquer. Donc, c'est un truc de dernier recours.
Histoire d'aller jusqu'au fond de la digression sur les abeilles, après on reviendra sur le cannabis. Et ça, si elles en ont conscience, est-ce qu'il y a une explication logique de pourquoi cet hameçon? Est-ce qu'on sait en observant la nature que Pourquoi est-ce que la nature a fait cet hameçon qui tue du coup le l'abeille?
Alors, c'est un détail, je n'en sais rien. Là, j'ai pas été plus loin dans ce détail-là, mais je vais dire que heureusement, dans un sens heureusement, parce que si on prend l'exemple de ce qu'on appelle l'abeille africanisée, c'est une abeille, on va dire, l'abeille passe, pour faire simple, je vais essayer de faire condenser, l'abeille, elle va passer par plusieurs métiers au niveau de sa vie. Suivant l'âge qu'elle va avoir. C'est ce qui lui permet d'apprendre, on va dire, elle apprend en premier à nettoyer autour, après elle apprend à nourrir, on va dire, et elle termine sa vie normalement par être ce qu'on appelle gardienne. C'est la fin de sa vie. Donc, il y a très peu de gardiennes. Elles sont, on va dire, juste une petite cinquantaine dans la ruche à normalement être gardienne de la ruche. C'est-à-dire que c'est celles qui vont attaquer quand quelqu'un essaye de s'approcher. Et malheureusement, dans les souches, ce qu'on appelle africanisées, qui est ni plus ni moins un croisement de deux souches d'abeilles, hein. Elle va avoir son métier de gardienne bien avant, quand elle est très jeune. Donc, on se retrouve avec des ruches complètes, prêtes à attaquer. Et là, ça peut poser des problèmes, on va dire. C'est ce qu'on appelle des ruches, des souches très, 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 très gardiennes. Alors, oui, okay. Moi, je prends un exemple. J'ai des souches qui sont, on va dire, très, très agressives. Mais on est loin de l'abeille africanisée où c'est toute la colonie qui va sortir, enfin, plus de 50% de la colonie qui va sortir pour attaquer, quoi.
Ok, ok, je comprends bien. Bah alors, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je pense que ça en a peut-être perdu quelques-uns, mais c'est pas grave parce que je pense que ça en a passionné aussi beaucoup d'autres. On pourrait en parler encore des heures. Revenons un peu sur le cannabis, le lien entre les abeilles et le cannabis. Donc, et selon toi, quels sont les avantages? Dans quel cas est-ce que tu dirais bien à quelqu'un non, bah écoute, peut-être que là, si tu veux te déstresser, prends pas forcément de la fleur ou de l'huile, prends plutôt du miel. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des avantages de dingue à faire cet effort?
Pour ce qui est du côté médical, au tout début que je suis arrivé en Espagne, je travaillais un peu avec des personnes de chez Calapa Clinique. C'est une clinique qui est à Barcelone, qui est basée sur le CBD, justement.
D'accord.
Et je m'étais bien entendu avec un des médecins qui est maintenant parti à la retraite, Mariano Garcia. Et je lui avais donné quelques pots puisque j'ai toujours pris par habitude de donner mes pots ou de les faire goûter en conférence. Quand je fais des conférences, on va dire, je viens avec un pot, puis comme ça, tout le monde peut y goûter. Ça permet le peu que j'ai, on va dire, je préfère le partager, le faire goûter que de dire je vais garder un pot, le vendre le plus possible, le mettre aux enchères ou quoi que ce soit. Je préfère le faire partager. Enfin, ça, c'est encore un autre point. C'est l'abeille m'a offert un produit fantastique. Je veux pas en
tirer profit. Avec... D'accord.
Ouais, voilà, ouais, ouais. Et l'entacher. Que ça soit aussi bien sur son domaine de santé à elle. C'est pour ça, comme je t'ai dit, il y a des choses que je préfère pas expliquer dans le processus, puisque je sais que ceux qui vont essayer, après, ils risquent de nuire à la colonie, voire même de tuer une colonie juste pour essayer de faire du miel. Quand je vois au début les gens qui me disaient, faut mettre la ruche à l'intérieur, c'est le premier truc que je disais. Non, non, surtout, n'oubliez pas une chose. Moi, tout est à l'extérieur. Rien n'est à l'intérieur. Puisque si on met, par exemple, des abeilles à l'intérieur, la première chose qu'elle va faire dans un univers indoor où c'est qu'il y aurait des lampes artificielles, c'est aller se coller aux lampes et mourir à cause de la chaleur. L'abeille, elle essaye d'aller, elle s'oriente. Les abeilles s'orientent uniquement avec le soleil. Donc, si elle voit une source lumineuse, elle essaye d'aller vers elle quand elle ne sait pas où elle est. Donc, si on se met en intérieur, on tue évidemment les abeilles. Okay, après, au niveau médical, on avait donc fait quelques petits essais, mais à part calmer un peu, mais comme on faisait beaucoup ça avec des variétés à THC, principalement à THC, on n'a pas... et sachant que la production était faible, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien d'essayer de chercher des effets positifs médicaux avec le miel, alors que la production n'allait que de 3-4 kilos par an. Par an. Il est beaucoup plus simple dans ce cas-là de faire un miel infusé soi-même, quoi, je dirais, qui va peut-être pas avoir le même goût que le mien, ça c'est sûr, mais on arrivera, et en plus, ça va mettre plus de cannabinoïdes dedans.
C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais un miel infusé?
Alors, il y a plein de façons de
faire un miel infusé. Comment est-ce que tu le ferais?
Comment
est-ce que tu le ferais,
correctement?
Ouais.
Ah, alors, correctement,
Alors, correctement, je ne sais pas. Je te donne la méthode basique, parce que correctement, on est obligé d'utiliser un adjuvant, quoi. Tu es obligé d'utiliser une huile qui va venir un peu faire l'hydrolysation avec l'eau.
Okay.
Donc la plupart des gens vont utiliser que ça soit de l'huile d'olive, de l'huile qui vont mélanger avec des cannabinoïdes. Ils vont passer ça au four pour les décarboxyler. Donc ça a ce goût typique, enfin moi que je déteste, d'huile décarboxylée. Et ils vont après mélanger ça avec du miel, tout simplement. Il y a pas vraiment. C'est si je me suis pris la tête aussi à essayer de trouver une solution naturelle. C'est parce qu'il n'y avait pas de solution non naturelle qui donnait un produit non plus respectable. Si tu veux les effets, c'est-à-dire si tu veux que ça soit décarboxylé, bah, tu es obligé d'avoir un sale goût. Si tu veux juste profiter du goût de la weed avec du miel, ah bah, rien n'empêche de mettre une tête de weed, de laisser une tête de weed dans un pot de miel qui va être liquide durant 6 mois et de consommer le miel, de remuer un peu de temps en temps et de consommer le miel après. Je suis sûr et certain qu'il va avoir un super goût, le miel. Il va avoir un goût, justement, peut-être même de la plante, peut-être pas fraîche, mais il va avoir un super goût. Mais les cannabinoïdes qui passeront, s'il y en a qui passent, puisqu'il peut quand même y en avoir un petit peu qui vont passer, dans le miel, il y a 0,1% de corps gras. Donc, les 0,1% de corps gras peuvent lier les cannabinoïdes. Donc, eux, ils vont, mais ça sera ce qu'on appelle des versions acides. Dans le cannabis, il y a ce qu'on appelle les versions acides et les versions décarboxylées. Les versions acides, ce sont toujours les versions qui vont pas avoir d'effet, on va dire, euphorisant. Par contre, sur le plan médical, c'est celles qu'on se rend compte qui ont le plus d'effet, hein, à l'heure actuelle. Là, le plus en plus d'avancées et de recherches nous montrent ça, hein.
Après, j'ai pas bien compris.
Pardon ?
J'ai pas bien compris le acide et pas acide. C'est-à-dire que tu prends la même plante, deux fleurs peuvent être différentes ?
Quand tu prends la résine, si on prend une bulle de résine d'une plante fraîche, okay, les cannabinoïdes, si on fait l'analyse des cannabinoïdes qu'il y a dedans, le THC, il est à plus de 90% sous forme de THCA, acide. Il n'est pas sous forme de THC. Okay, le THCA n'a pas d'effet euphorisant. C'est pour ça que si tu manges, enfin, la plupart des gens, parce qu'il y a encore un petit détail, c'est encore autre chose, enfin, la plupart des gens qui mangent une tête de weed n'ont pas d'effet. Je dis bien la plupart, parce qu'il y a des fois une histoire d'enzyme dans le corps qui peut transformer les molécules. Ça se passe, enfin, si tu veux, on peut parler un petit peu du côté, on reviendra un peu sur l'apiculture après, mais on peut parler un peu du côté médical, parce qu'il y a justement des parties assez intéressantes à ce niveau-là,
ouais, pour venir
au CBD et autres. Moi, tu sais, ça fait très longtemps, la base, hein, c'est en 1999 ou 2000, j'ai un ami à la base, il était atteint d'une syringomyélie. La syringomyélie, c'est une maladie dégénérative. Et il avait remarqué une chose, il avait remarqué que quand il fumait, de temps en temps, mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, de temps en temps, ça allait super bien. La syringomyélie, c'est une maladie qui te rend comme une pierre. C'est-à-dire, tu te paralyses complètement jusqu'à avoir les poumons qui se paralysent et la mort. Donc, c'est une maladie avec une fin tragique, malheureusement, mais donc très invalidante. Il se réveillait le matin, il était coincé complètement de la nuque. Et de temps en temps, quand il fumait, pouf, il savait pas pourquoi, ça le décoinçait. Et un jour, il savait que moi, c'était déjà des thèmes qui m'intéressaient, le cannabis médical et autres. Il m'a dit, « Oh, Nicolas, il faudrait que tu essayes de me trouver quelque chose. On va essayer de travailler ensemble. On va essayer de trouver une variété ou quelque chose. Pourquoi est-ce que ça me fait du bien ?» De là, on a essayé, on a commencé à faire des croisements. C'est là que j'ai fait un premier croisement avec de l'orange californienne. Et pour lui, qui a super bien marché, on a découvert au final que c'était justement le THC et non pas le CBN ou autre. Et donc, quand il fumait avant, il y a certains hashish qu'il fumait qui étaient très frais, donc qui étaient forts en THC, et d'autres qu'il fumait qui étaient ce qu'on appellerait le bon vieux hashish marocain, quoi. Et il faut savoir que dans le hashish marocain, il contient très peu de THC. C'est beaucoup du CBN. C'est encore une autre étape de c'est une étape d'oxydation du THC, là, par contre. C'est le THC qui va s'oxyder et qui va devenir du CBN. C'est une autre molécule. Moi aussi, par exemple, pour l'hyperactivité, c'est la molécule principalement qui me calme, moi.
Bon, bref, donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à aider les gens. Après, je me suis mis à aider d'autres personnes. Ça allait vraiment pour tout. Hein. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour Crohn, des douleurs neuropathiques, que ça soit pour des cancers, des leucémies, des Dravet. Alors des fois, évidemment, hein, ça a super bien marché. On a trouvé des trucs qui marchaient super bien. Et puis des fois, bien évidemment, non. Hein. Le cannabis, c'est comme tout. Faut pas oublier une chose, ça marche super bien pour beaucoup de choses, mais c'est pas la panacée non plus.
Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que ça marche pour tout le monde.
Ah non, c'est pas pour tout. Il y a des personnes avec qui ça, on va avoir. En plus, ça dépend des personnes, puisqu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Faut pas oublier que rien qu'au niveau de l'ingestion, par exemple, au niveau de l'ingestion du cannabis, les enzymes qu'on a dans l'estomac vont jouer. Vont changer des fois les cannabinoïdes. J'ai eu le cas, hein, et ça arrive des fois à des personnes qui consomment du CBD, uniquement du CBD, je parle d'isolat de CBD, rien d'autre, pas d'autres cannabinoïdes autour, hein, qui vont l'ingérer et qui vont se retrouver avec des effets euphorisants. Parce qu'on peut avoir certaines personnes, ça concerne 4-5% des personnes, une enzyme qui, elle, va, on va dire, couper la molécule de CBD pour la retransformer en THC. Pas en THC, pas en delta 9, en delta 11 ou delta 13, je me rappelle plus, mais un des cannabinoïdes de THC. Quoi. Après, c'est comme tout. Faut pas oublier une chose. Hein, il mérite juste qu'il reprenne sa place dans la pharmacopée française, hein, et puis pharmacopée mondiale évidemment.
Mondiale aussi.
Il était là il y a des centaines d'années. Hein. Il y a un endroit qui est magnifique à visiter, c'est le musée du chanvre à Barcelone. Il y a même sur le site internet du musée du chanvre à Barcelone, il est accessible en français, dans plein de langues. Ils expliquent beaucoup de choses. Et quand tu visites ce musée-là, quand tu vois le nombre de médicaments qu'il y avait au 20e siècle qui étaient à base de cannabis, mais c'est incroyable. Tu vas à Barcelone, en bas des Ramblas, les célèbres Ramblas de Barcelone. En bas des célèbres Ramblas de Barcelone, il y a la statue de Christophe Colomb qui pointe les Amériques. Ben, sur la colonne sur laquelle est Christophe Colomb, il n'y a que des feuilles de chanvre. Les gens n'y prêtent pas attention, ce sont des feuilles de chanvre qu'il y a tout le long. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la marine marchande, il n'y aurait pas eu le chanvre, il n'y aurait pas eu une marine marchande. C'est grâce au chanvre qu'on a pu aussi aller aussi loin qu'on a eu la marine et tout ça. On a passé. L'homme, il a commencé il y a plus de 12 000 ans à s'intéresser au cannabis. Que ça soit pour ses vertus médicales ou ses vertus, que ça soit pour s'habiller, se chauffer. C'est juste qu'on est en train de redécouvrir les choses. C'est un grand cycle. On est en train de redevenir maintenant de plus en plus vers une redécouverte des cannabinoïdes, de leur potentiel.
Écoute, on a fait une bonne digression sur les abeilles. Je pense aussi qu'on peut se permettre une bonne digression sur l'histoire du chanvre, puisque j'ai l'impression que beaucoup, en tout cas en France, souvent quand on dit chanvre, les personnes pensent bâtiment, isolation. Et pour beaucoup, le cannabis, c'est totalement différent. Et pas mal aussi pour des personnes du monde du cannabis, quand on leur parle de chanvre industrielle, de textile, de bâtiment, etc. Ah ok, je pensais que le canna, c'était le canna, et que le chanvre, c'était autre chose. Alors qu'en fait, le cannabis, ça fait... Je savais pas que c'était aussi.
On fait énormément de choses. On fait énormément
bien sûr. Et on en a fait. Je n'avais pas les 12 000 ans en tête. Pour moi, les premières traces, c'était 4 500 ou 5 000.
L'Asie néolithique. L'homme a commencé à domestiquer le cannabis il y a 12 000 ans.
Je pense qu'on peut se permettre au moins 5 ou 10 minutes sur ce sujet-là. Donc, c'est parti d'Asie.
C'est parti d'Asie et des cavaliers mongols après qui ont eux commencé à le dispatcher, on va dire, à travers les pays. L'histoire du cannabis à travers les âges, il a toujours été utilisé. On l'a utilisé pour que ça soit pour le cordage. Dès le début, ça a été, on l'utilisait pour faire les toitures. On utilisait la chaume du cannabis parce qu'on s'est tout de suite rendu compte que c'était une fibre qui était très longue. C'est de la lignine très, très, très longue.
Ça, et très résistante.
Ah ouais, c'est infernal. On arrive à faire. On fait maintenant du béton chanvre qui est formidable. Je me rappelle plus c'est quelle mairie. Il y a une mairie qui a fait une salle municipale en France uniquement en béton chanvre. Je l'ai plus en tête. Il y a une paire d'années que ça a été inauguré, hein, uniquement en chanvre.
On peut leur faire un peu de pub. Je les connais pas, mais c'est l'entreprise française la plus connue là-dedans, c'est Hempit, qui fait des moellons avec la chaîne vote, donc avec le cœur du tronc du chanvre.
Ah ben c'est, je connais un peu, j'ai Ben Dronkers qui est un ami, donc ça a été un des premiers lui en Hollande hein, à utiliser, à avoir fait M-Flax, à utiliser justement la fibre quoi. À travers les âges, on n'a pas arrêté de l'utiliser. Hein. Tu prends même durant les campagnes napoléoniennes, Napoléon, il avait interdit l'usage du hashish dans ses troupes, puisque quand ils sont passés en campagne d'Italie, ils ont ramené le hashish avec eux aussi. Après, en France, ça a donné tout ça, ça a donné ce qu'on a appelé le club des hashishins. Le club des hashishins, c'était un club de philosophes et autres qui étaient des gens qui consommaient. Principalement, ils ne fumaient pas le cannabis, ils l'utilisaient sous forme de boisson, le dawanek, c'est une boisson avec des épices, du café et du hash. Et ça les faisait partir loin, ils partaient, ils philosophaient là-dessus, et nos plus grands philosophes, quand on voit j'ai oublié son nom, même des écrivains comme...
Il y a Victor Hugo, il y avait Flaubert, il y avait...
Gargantua, merde, putain, là j'ai un
blanc. Rabelais,
voilà. Rabelais, quoi. Voilà, tout ça, c'est une redécouverte hein, pour les gens de découvrir que c'était du hashish qui parlait et autres. L'homme a toujours aimé voyager. Ça, c'est un truc. Il a toujours aimé voyager. S'il ne peut pas voyager en réel, il voyage par l'esprit. Alors, évidemment. À l'heure actuelle, il existe tellement de flous juridiques et autres qu'on se retrouve avec sur le marché avec tout un tas de saloperies. Tu vas avoir des molécules de synthèse, tu vas avoir maintenant, il y a très récemment, ils ont interdit le HHC. Le HHC, c'était une molécule euphorisante qui était mise sur les weed CBD, elle était sprayée dessus souvent. Et c'était vendu légalement. Mais imagine, t'avais une petite grand-mère qui disait, tiens, j'ai envie d'essayer le CBD, j'ai envie d'essayer de me faire une infusion au CBD ou autre. Elle arrivait dans un magasin comme ça, elle se retrouvait avec du HHC. Enfin, je veux dire, c'était quand même pas, il était grand temps d'interdire des produits comme ça. Si on prend ça, tu sais, t'as aussi la Bouddha Blue, évidemment, tout ce qui est autour des Delta 8, quoi, ce qu'on va appeler les cannabinoïdes de synthèse. Car on s'est rendu compte que, c'est simple à faire. On peut maintenant, un chimiste, c'est que du travail de chimiste, hein, les molécules. Hein, et donc, faire une molécule, c'est simple. À partir d'autres molécules. Beaucoup croient que les molécules comme le HHC sont faites à partir du CBD, mais non. La première fois qu'il a été créé, le HHC par exemple, oui, il a été fait à base de CBD. Mais à l'heure actuelle, le HHC qui est vendu, c'est uniquement synthétique. Totalement, totalement synthétique. On parle de produits, on n'a aucun recul. Et puis, à côté de ça, on va interdire des molécules comme le THC, la weed, tout simplement, le cannabis, sur lesquels on a, donc, comme je te disais, 12 000 ans de recul. Et en 12 000 ans, le nombre de morts directes, je dis bien directes, hein, qu'on pourrait attribuer au cannabis, hors allergie, évidemment spécifique, est de zéro. Il reste de zéro.
Incroyable.
Quand on compare avec ce que tue l'alcool, le tabac, les autres drogues, on est quand même très, 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 très loin. Mais bon, ça avance tout doucement. Quand on voit les pays récemment, là, on est sur la première année de légalisation pour le Maroc. Ça évolue, ça bouge. Ça bouge.
J'en profite, Nico, d'être avec toi, avec Nicolas, d'être avec toi pour revenir un peu sur les molécules de synthèse. On a fait intervenir Mathieu Croiset, un avocat qui a bien voulu prendre la parole sur l'interdiction du HHC.
Bien.
En fait, ni moi, ni. Enfin, il faudrait faire intervenir un médecin, mais. Moi, j'ai rien à dire sur les effets du HHC que j'ai pas goûté, que j'ai pas eu envie spécialement de goûter. On l'a fait intervenir sur la manière dont ça a été interdit, parce qu'on trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de procédure qui accompagnait cette interdiction.
Ah, mais il aurait fallu un vrai débat. C'était le moment d'ouvrir. C'est pour ça. On dirait que l'État, il préfère voir nos jeunes fumer des produits sur lesquels on n'a aucun recul, plutôt que de simplement réguler et légaliser le marché du cannabis sur lequel l'État pourrait faire des milliards. C'est quand même, c'est, on a plus d'un pour cent du PIB là-dedans. Après, je sais, il y a évidemment, tu as tous les acteurs du contre qui vont te dire, ah bah oui, mais la schizophrénie et tout ça. Alors, les études sur la schizophrénie, j'aimerais bien qu'on... Il n'existe à l'heure actuelle aucune étude qui démontre que le cannabis va produire de la schizophrénie. Il va révéler une schizophrénie latente, c'est-à-dire quelqu'un qui a une schizophrénie latente, il peut la révéler, mais il ne va pas créer de la schizophrénie. Et ça, c'est totalement des aberrations qu'on entend encore à l'heure actuelle. Mais on a eu en France Gabriel Naa. Gabriel Naa, ça a été... on va repartir un peu plus tôt dans ce cas-là, si tu veux. Et on va partir à la base sur la prohibition, mais bon, je pense que tu as déjà fait une paire d'épisodes sur l'histoire de la prohibition, comment elle a démarré aux États-Unis, avec...
Pas encore, justement.
Non, non. Alors, faut savoir que la prohibition, elle a démarré aux États-Unis, ni plus ni moins, parce que d'un côté, tu avais les Américains, de l'autre côté, tu avais les Mexicains. Les Mexicains produisaient le chanvre, qui donc, lui, le chanvre est du cannabis, hein, ni plus ni moins. Et on avait aussi des petites usines, un sénateur qui avait des usines de papier bois. Quand on sait que le papier bois est nettement moins qualitatif que le papier que l'on peut faire en chanvre, forcément, pour lui, c'était pas intéressant d'avoir un concurrent comme le papier chanvre. De là, il a été voir des gens qu'il connaissait. Il s'est mis en chemise avec une personne qui s'appelait Assinger. Assinger, qui est devenu plus tard le président de la DEA, la direction anti-drogue américaine. Donc, Assinger a mis en place ce que l'on a appelé le Marijuana Tax Act, qui était ni plus ni moins une taxe pour la production du chanvre. Mais comme ils ne donnaient aucune licence, ils ont interdit, on va dire, de fait, le cannabis. Et comme ça, les usines de papier bois ont pu tourner à plein régime. De là, à la DEA, Assinger a continué à essayer de faire pression jusqu'en 1970, où il a réussi à faire pression sur la France, où ils ont passé la loi, il ne faut pas oublier, le jour où a été passée la loi en France sur l'interdiction du cannabis, elle a été passée un 31 décembre au soir. Qui va à l'Assemblée le 31 décembre? Très peu de gens. Donc, c'est pour ça que ça a été facilement passé, on va dire, la prohibition du cannabis est passée facilement en France, parce qu'elle a été passée un 31 décembre. Et c'était une personne qui s'appelait donc Gabriel Naa, qui était donc un fervent, il était un anti-cannabis par excellence. Il nous a sorti des études aberrantes. C'est lui qui avait sorti l'étude aberrante sur les singes, où ils ont asphyxié des singes quand même. Ils ont été jusqu'à priver d'oxygène totalement les singes. Ils les faisaient respirer uniquement de la fumée. Tout ça pour après aller ouvrir le cerveau et dire « Regardez, ça détruit des neurones ». Non, c'est pas le THC qui détruit les neurones, c'est d'être privé d'oxygène comme vous avez privé n'importe quel, on priverait n'importe quel organisme, tout simplement, ça détruit les neurones. Bon, évidemment, depuis, elles ont été, il y a eu des contre-études, mais elles restent encore, ces études, il y a encore des gens qui y croient, encore énormément de gens. Quand on voit qu'il y a encore énormément de gens qui croient au vieil adage, qui fume un joint le lundi, se shootera le vendredi, enfin, il y en a encore qui y croient à ça.
Et oui, et comme pendant longtemps on n'a pas pu parler de ce sujet-là, certainement, enfin, c'était d'autant plus compliqué de casser ces mythes, sachant que quand on parlait pouvait être répréhensible, enfin, et tout.
Jusqu'à il y a peu de temps, tu sais, j'ai vécu l'époque où je vais te donner une petite anecdote que j'ai eue. Je faisais des stands d'apiculture en rave party.
Okay.
Imagine, hein, c'est dur, hein, mais je faisais des stands d'apiculture en rave party.
Le fait qu'on ne peut pas faire d'éducation, puisque normalement c'est interdit de parler de cannabis sous un jour positif.
Quand j'étais en rave party, je faisais de la réduction des risques avec le miel. C'est-à-dire que comme on n'avait pas le droit de faire la réduction des risques, de dire aux gens d'avoir une association de réduction des risques, elles étaient devenues interdites. En France, on préfère tout simplement que les gens aient aucune information plutôt qu'ils aient une information valable qui va leur permettre de faire les choses sainement. On a su pour l'alcool réguler le marché de l'alcool. Alors, je dis pas que l'alcool est bon, hein, mais si on prend l'humain, de par lui-même, un interdit, il va toujours essayer de le braver. On a eu la prohibition de l'alcool, on a vu que ça n'a pas marché. On a la prohibition du cannabis, on voit que ça ne marche pas. Alors, même si moi, je ne suis pas consommateur, on va dire, de drogue dure, mais mon expérience et l'expérience de l'homme que je peux en déduire, c'est que la prohibition des drogues ne marche pas. Seule la régulation, l'information permet aux gens d'avoir une réelle réduction des risques pour ce qui est des réductions des risques des drogues quand il y en a besoin. Évidemment, le cannabis, il y a besoin de faire une réduction des risques, que ça soit pour les jeunes, car évidemment, il n'est pas bon de fumer quand on a un cerveau en développement. Il n'est pas bon de fumer tout simplement parce qu'on va avoir la combustion. Mais bon, on est quand même...
D'ailleurs, ça me donne envie de faire un petit exercice avec toi. Je l'avais fait avec Dominique Broc. Je ne sais plus si on l'avait enregistré cette partie, malheureusement. J'espère que oui. Si l'année prochaine, la France légalise le cannabis, selon toi, quelles sont les contraintes qui devraient être mises ? C'est-à-dire que, en fait, la légalisation, c'est pas dire, OK, les gars, on peut tout faire tout le temps avec tout. Est-ce que, selon toi, il y a des produits qui devraient rester interdits ? Est-ce que, selon toi, il y a des modes de consommation ? Est-ce qu'il y a un âge ? Si oui, lequel ?
Alors, évidemment, l'âge, oui. Je suis pour qu'il y ait, comme pour l'alcool, un âge de 18 ans, on va dire, minimum, pour ce qui est... Alors, tout ce qu'on va parler, là on va parler d'une légalisation, et donc, je mets le côté médical de côté. Hein, puisque pour ce qui est de, je prends par exemple, ça m'est arrivé moi d'aider une personne pour un syndrome de Dravet, c'était une enfant, elle avait à peine 6 ans. Mais là c'est différent, on parle du côté médical. Mais si on parle sur le côté uniquement récréatif, évidemment, basé comme l'alcool, c'est-à-dire qu'au niveau de l'âge, mettre un système à 18 ans, faire un système de production avec licence, ce qui permet... comme l'alcool, d'avoir un contrôle. Ça permet aux douanes de ne pas perdre leur travail, puisqu'ils ont... comme on prend par exemple... à la base, moi, je viens du Champagne, de la Champagne. Donc, je connais un peu le système du Champagne, comment ça se passe. Et tu prends un producteur de Champagne, par exemple, les douanes peuvent rentrer sur son exploitation à n'importe quel moment pour faire un contrôle, puisqu'il produit de l'alcool. Donc, le même système pourrait être fait pour faire un contrôle. Ensuite, évidemment, il faut mettre en place un système de suivi des cultures. Ça, c'est des normes basiques à mettre en place pour ce qui est d'avoir des lots, c'est-à-dire avoir un lot, une analyse, enfin, de culture, de façon à avoir une analyse complète du produit fini, qui va être la fleur au démarrage. Après, ce produit fini, évidemment, s'il est retransformé, il faut refaire une analyse pour avoir une autre analyse. Au niveau des restrictions, je vois pas d'autres restrictions que l'âge, puisque que ça soit les concentrés et autres, eh ben c'est comme l'alcool. On va dire que tu vas pas aller te boire une bouteille de whisky, tu sais que tu vas pas te relever. Ouais. Ben les extracts, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce qu'on appelle extracts, c'est-à-dire les concentrés, hein, que ça soit les rosines, ou des isolateurs très très forts, la personne qui est pas habituée, qui en fume beaucoup. C'est un peu le même principe, quoi. Je dirais, il y a tout quand même un minimum d'informations à avoir, et ça, seule la légalisation le permet. À l'heure actuelle, on a interdit toute forme de réduction des risques. Dans les années 90, il y avait, tu prends même les années, j'ai vécu les années même 2000 où on avait Techno Plus et autres, on avait des assos qui avaient réellement le droit de faire de la réduction des risques. Ça allait, on arrivait à informer les gens même sur les drogues dures et autres. Mais maintenant, vu qu'on n'a pas le droit de faire de réduction des risques, il y a une désinformation. Et cette désinformation, elle court aussi bien chez les professionnels du domaine, que ce soit les magasins, que ce soit chez les utilisateurs et les consommateurs, mais elle est aussi au niveau des médias, elle est aussi au niveau de la police, elle est partout. C'est incroyable. Quand on prend, par exemple, au niveau du CBD, les gens, le CBD... Le CBD, c'est un super produit qui permet aux gens, ça permet aux gens de faire connaître le cannabis. Il va avoir des effets, le CBD, sur certaines pathologies, oui, peut-être très légèrement. Le seul point sur lequel il va vraiment, vraiment, vraiment avoir une action, et ça, ça a été prouvé, c'est un régulateur, j'ai dit régulateur, attention, hein, j'ai pas dit il va empêcher. C'est un régulateur de l'angoisse et du stress. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas stressée, pas angoissée, elle pourra consommer autant de CBD, c'est pas ça qui va l'aider à dormir, et le CBD ne va pas aider à dormir, il va juste réduire une personne qui a des angoisses à un niveau normal. Pas en dessous de la normale, c'est pour ça qu'une personne qui n'a pas d'angoisse ou pas de stress, ça ne lui fera rien. Un régulateur. C'est la seule vraiment gros point positif. Et c'est comme ça que... Et on va parler uniquement du CBD. Hein, c'est-à-dire que dès l'instant où il est mis sous forme de weed CBD, c'est-à-dire les weed CBD qu'on peut trouver dans les magasins de CBD, il va y avoir d'autres cannabinoïdes et ils vont donc interférer un peu sur cet effet-là.
Pour toi, quelqu'un d'angoissé qui voudrait du coup réguler un peu cette angoisse justement, il vaudrait même mieux qu'il prenne un Isola.
Alors, qu'il vape, vaudrait mieux qu'il vape pour le côté ne pas utiliser déjà de fumée à proprement parler de combustion, vaper du CBD, de l'Isola de CBD et avec des terpènes qui vont être des terpènes de myrcène, des terpènes principalement qui vont avoir des odeurs. Pour faire simple, quand on fume, il y a aussi une histoire de récepteurs. C'est-à-dire qu'on a des récepteurs dans le corps qui vont s'ouvrir pour capter les molécules de cannabinoïdes. Plus on va ouvrir de récepteurs, plus les cannabinoïdes vont rentrer. Et c'est pour ça qu'il a été prouvé, par exemple, que quand on mange une mangue, avant de fumer du cannabis, le THC va avoir plus d'effet. Parce que dans la mangue, elle contient du myrcène, du bêta-carophyllène, qui, eux, sont deux terpènes qui vont ouvrir le récepteur CB2. Et donc, le THC va tout de suite rentrer, et donc, il va donner plus d'effet. Donc, pour une personne qui est angoissée ou stressée, on va jouer plus sur des terpènes aussi, on va jouer avec le myrcène et le linalool, c'est-à-dire les odeurs un peu citronnées. C'est-à-dire que si la personne, elle veut calmer des angoisses ou du stress, vaudrait mieux un liquide basique au CBD, à l'Isola de CBD, mais avec des terpènes de citron, par exemple. Et ça aura beaucoup plus d'effet que de fumer une weed CBD. À dosage de cannabinoïdes équivalent, évidemment.
Ok, génial, super info. Pour le coup, j'étais resté sur l'effet d'entourage et forcément mieux, vraiment bêtement par principe.
L'effet d'entourage, de toute façon, il est hyper important. Et alors, il est hyper important pour d'autres pathologies et, d'avoir les autres cannabinoïdes. Là, je donne l'exemple de l'angoisse et du stress où c'est le CBD uniquement qui, lui, va agir et qu'il ne faut absolument pas d'autres cannabinoïdes. Là, par contre, il ne faut pas d'entourage effect de cannabinoïdes, il faut un entourage effect de terpènes seulement, on va dire. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'autres affections où on va avoir besoin d'une symbiose de cannabinoïdes. On va travailler avec plusieurs cannabinoïdes. Il y a le Canada, par exemple, en ce moment, ils sont en train d'essayer de breveter une variété qui sont appelées Eve, de souvenir, ou Ice, je m'en rappelle plus, Ice ou Eve, qui va être vraiment basée pour essayer de atténuer les douleurs de chimiothérapie. Parce que c'est une variété qui vont avoir fait la combinaison de cannabinoïdes et de terpènes marche bien pour ça. En Uruguay, ils ont légalisé, c'est beaucoup, il y a des variétés. Pour le côté médical, il y a trois variétés. Ils ont été chercher des variétés. Ils n'ont pas le même principe que nous. Alors, il ne faut pas oublier qu'en France et dans les pays européens, on va avoir tendance à fonctionner avec la molécule, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la molécule, essayer d'extraire la molécule, voir son potentiel médical. Et des pays comme l'Uruguay, justement, eux, ils ont eu tendance à essayer de chercher directement la plante, au complet. Donc, ils sont arrivés à avoir une plante pour les douleurs. Je sais que pour les douleurs du dos, c'est pas du tout la même plante que pour une personne qui va avoir un cancer.
En termes de cannabis ou...
Ah oui, oui, en termes de cannabis.
Oh, d'accord, d'accord.
Là où ils n'ont pas fait. Alors, on est, on va dire, en France, on est encore à l'heure où on fait vraiment cette différenciation entre le cannabis récréatif et médical. Mais tout cannabis peut être médical ou tout cannabis peut être euphorisant, presque, on pourrait dire. Puisque le chanvre en lui-même, comme je te disais, quelqu'un qui a des enzymes de l'estomac qui va transformer le CBD, il va consommer du chanvre. Et il peut très bien se retrouver avec du THC à la fin, dans l'estomac. On est toujours sur la même plante, c'est juste qu'à l'heure actuelle, on découvre les bienfaits du CBD. Le CBD n'étant pas interdit, ça permet d'avancer un peu sur la légalisation. Moi, on était à l'époque, quand j'allais en rave party, on n'avait pas le droit même d'avoir une feuille de cannabis sur nous. Hein. J'avais toujours un pull à l'époque, je faisais partie du CIRC dans les années 98, un truc comme ça. Okay, j'avais le bon vieux pull du CIRC avec le clown derrière. Je m'étais fait arrêter par la police qui me demande d'enlever le pull parce que c'était interdit, ils voulaient me mettre, sinon ils allaient me mettre une amende, ils voyaient que j'avais un t-shirt avec la feuille de canard, ils disaient « Ah, vous enlevez le t-shirt ?» J'enlève le t-shirt et là, ils voyaient le tatouage. J'aurais fait « On fait comment ?» Bon, ils ont été sympas, Le jour-là, ils m'ont laissé repartir, ils ont rigolé, quoi, parce qu'ils ont vu que je m'amusais bien avec eux, puis j'avais rien à me reprocher, quoi. C'est comme tout. Ça avance quand même. Ça avance. Quand je vois, moi, l'époque que j'ai vécue, les années 90-2000, où il n'y avait pas cette répression comme on a, par contre, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, la répression, elle est beaucoup plus forte. Elle se voit plus et elle impacte beaucoup plus la vie. Quand on voit les contrôles routiers, une personne à l'heure actuelle qui va fumer de la weed CBD, qui se fait contrôler sur la route, qui se fait prendre un test salivaire, elle perd son permis. Il y en a à l'heure actuelle, il y a des gens qui perdent leur vie, on peut dire leur vie, juste parce qu'ils consomment un produit qui est légal.
Mais ça, c'est vrai que c'est un énorme problème dans la matrice.
Il serait possible de réussir à faire des taux. Alors oui, ça oblige pour l'instant à faire une prise de sang pour dire vous avez tel taux. Et de dire là, oui, c'est un taux qui n'est pas raisonnable. Mais pareil, de faire vraiment des vrais taux. Je sais bien que c'est dur puisqu'on s'accoutume. Il y a très vite une accoutumance. Donc on va dire qu'il y a des personnes, un fumeur régulier, il a très peu d'effet. On a beau dire ce qu'on veut, une personne qui fume occasionnellement, je suis tout à fait d'accord qu'elle a beaucoup de ses sens qui vont être perturbés. Une personne qui fume très régulièrement, c'est exceptionnel. L'alcool, si on compare avec l'alcool, même une personne qui boit beaucoup, il va certes lui en falloir plus, mais elle va arriver au même niveau d'effet alcoolique. Je dirais, elle va tomber dans ce coma, que ça soit la personne qui boit très peu, elle va boire 3-4 verres, elle va tomber dans le coma, que l'alcoolique qui va lui falloir son litre et demi de whisky, je dirais presque. Le cannabis, non. La personne qui fume beaucoup, elle aura beau fumer ce qu'elle veut, elle va pas être pour autant dans un état pas bien. Elle sera jamais comme une personne qui ne fume jamais et qui va seulement fumer 3-4 lattes.
Il y a cette. Et ça, c'est le sujet du permis, c'est un sujet vraiment. D'ailleurs, déjà, c'est vraiment crucial parce que c'est au centre de pas mal de vies, le fait de conduire ça, pour ça aller réduit, travailler, pour aller.
Ça réduit des vies à zéro. C'est incroyable. Juste, et je te dis, bon, alors autant les personnes qui fument de façon récréative. On peut dire qu'on sait qu'on risque, mais quand je vois le côté médical, les personnes qui l'utilisent du côté médical et qui se font à l'heure actuelle retirer le permis, ou des personnes simplement voilà, qui veulent se détendre sans pour autant fumer quelque chose d'illégal, du THC, qui vont aller chercher de la weed CBD tout simplement. Ils vont aller chercher de la weed CBD, ils vont fumer leur weed CBD, le lendemain matin ils arrivent pour aller au boulot, ils ont un contrôle, paf, ils n'ont plus de permis. Celui qui est routier, il perd tous ses permis, il perd tout ça, c'est la descente aux enfers. Je sais pas à combien ça a pu être estimé le nombre de personnes à qui ça ruine la vie par an. Mais c'est énorme.
Mais ça, en face de la dangerosité que ces personnes conduisent.
Alors ça, s'il fallait, il y en a eu plein. Ouais. J'en ai pas mal des études comme ça sur la conduite, justement, où c'est qu'ils se sont amusés à faire plein de dosages différents avec des personnes en comparant la personne non consommatrice, la personne consommatrice occasionnelle et la personne consommatrice régulière, avec des dosages aussi bien en fumée qu'avec des édibles. On en arrive toujours au même résultat. Une personne, oui. Et je dis pas qu'il faut consommer régulièrement, mais une personne qui consomme régulièrement n'a plus justement ces effets euphorisants qui peuvent être invalidants. Voire au contraire, si on prend les cannabinoïdes bien séparément, quelqu'un qui va avoir besoin de dormir, il va essayer de trouver vraiment ce qu'on appelle le bon vieux hashish marocain, qui va être du CBN, parce que ça va le calmer, ça va le détendre. Celui qui veut être plus, pas actif, mais plus alerte, plus, comment dire, avoir le cerveau plus actif, il va justement fumer que du THC. Parce que le THC, au démarrage, quand on commence à, quand on est habitué à fumer, je dis bien quand on est habitué à fumer, le THC va être légèrement euphorisant, mais il va surtout, limite, pas focaliser, mais il va permettre plus de création, plus de connexion, de réfléchir mieux. À l'inverse d'une personne qui n'aurait jamais fumé, à qui on va faire fumer la première fois, qui, elle, va être éclatée, comme on dit, sur le canapé, avec les yeux écarquillés, qui va... Enfin, les premières fois quand on a fumé tous, quoi, on avait tous cet effet-là, que jamais on aura, ou si on veut le ravoir, il faut arrêter de fumer pendant une semaine. En arrêtant de fumer pendant une semaine, on vide vraiment les récepteurs, on vide une partie des graisses qu'on avait dans le corps, enfin, une partie des cannabinoïdes, puisque les cannabinoïdes qu'on ingère ou qu'on fume sont stockés dans nos graisses en permanence. Donc, c'est-à-dire que c'est très, très long. C'est-à-dire que même si on prend un énorme fumeur, qu'on le fait arrêter de fumer, on attend quelques mois, mais qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'ait aucun stress ou autre, le jour où on fait un gros stress, il se retrouve avec une petite montée de THC. Parce que ces graisses qui sont dans le corps sont détruites dues au stress. Le corps, quand on est en stress, il va chercher dans les graisses. Et paf, le THC est relâché. Il y a eu une étude qui a montré ça.
Incroyable.
Parce que c'est stocké dans les graisses, quoi, en permanence.
Donc incroyable. Écoute, Nicolas, je t'écoute religieusement et je pourrais t'écouter facile au moins une heure ou deux de plus.
Ouais, non, oui, je vois. Puis, tu sais, mais moi, quand je parle, j'arrête pas. Puis y a
non, mais c'est pas du tout un défaut.
Enfin, moi, j'ai l'impression, tu vois, comme je dis toujours, à chaque fois que je termine une interview, j'ai l'impression d'avoir parlé de qu'un dixième des trucs et d'avoir simplifié le plus possible sans être rentré dans les détails. Mais écoute, alors oui, en rentrant dans les détails, il y a des termes qui changent, mais...
Là, ça fait 1h20 qu'on parle, ressenti pour moi une demi-heure. J'espère que pour ceux qui t'écoutent en podcast, là, actuellement,
j'espère que ça fera pareil pour eux.
Et je voulais terminer sur un sujet un peu plus léger que je trouve très intéressant. Et je pense quand même si c'est bon pour toi qu'il faudra qu'on se recale un moment pour aborder d'autres sujets. On s'était mis un peu d'autres sujets, mais j'avais noté d'autres sujets. Mais sinon, ça ferait trop long là pour cet épisode-là.
Ouais, non, mais pas de souci.
Le dernier sujet qui est un peu plus léger, mais qui je trouve, qui je pense intéresserait beaucoup de monde, c'est ce que tu me disais sur le CBD et le café. Je trouve que c'est un bon exemple de choses qui sont pas encore aujourd'hui démocratisées et qui pour autant, peut-être que dans 5 ans, tout le monde prendra ce café-là. Ça fera partie de la vie quotidienne. Et alors... je trouve que c'est le petit exemple. C'est pas un sujet très, très complexe, très grave, mais c'est un petit exemple qui montre qu'en fait, le cannabis peut aussi se glisser à des endroits comme ça, plus facile. Et voilà, je te laisse en parler.
Ah ouais, non, ça c'est un petit sujet. Bah c'est un petit truc en fait. Il y a déjà quelques temps que je voyais sur le marché, ça m'était déjà arrivé de voir, tu sais, on voit des fois des cafés au chanvre, des choses comme ça. J'avais même déjà vu du café au CBD, mais je m'étais dit à la base, ouais, café, CBD, où va être l'intérêt? Comment va fonctionner l'intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire ou est-ce que c'est juste une histoire juste comme ça pour faire un marketing, un produit en plus? Et puis après j'ai réfléchi. Alors j'en ai acheté, hein, pour goûter. Hein. Ouais. Alors je me suis retrouvé la plupart, c'est tout ce que j'ai eu à chaque fois, c'était des cafés avec donc ni plus ni moins du chanvre mélangé. Alors bon, bah le seul problème, c'est que déjà il y a une chose qu'on ne dit surtout pas aux gens et qu'il faudrait dire absolument à 100% quand on fait du café ou du thé au chanvre, c'est qu'il faut impérativement mettre du lait ou un corps gras. Si on ne met pas de lait ou un corps gras, les cannabinoïdes qui sont dans la plante ne vont pas passer dans le thé. Et ça, là, je vois je ne sais combien de paquets de thé qui sont vendus et c'est pas écrit aux gens de thé au CBD, je parle, hein, de thé au chanvre, ou c'est que c'est pas écrit, alors que c'est le premier truc à dire. Si vous voulez que les principes actifs de votre plante aillent dans l'eau, ce sont des corps gras, il faut un corps gras. Donc le seul moyen, c'est de mettre un peu de lait ou un peu de beurre ou un peu. Donc ça, c'était un truc que je m'étais dit, bah pour le café, ça peut pas aller. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami maintenant en Colombie, qui est un petit producteur de café, qui est à moitié français, à moitié colombien. Il a sa petite finca, comme on dit, de production de café. Et on a commencé à essayer, à réfléchir, à essayer de trouver un système pour se dire le café, c'est bien, ça réveille. Moi, je sais que étant hyperactif, tu te doutes bien que si je bois beaucoup de café dans l'état où je peux être, je deviens électrique. Ouais. Donc, c'est le premier truc que moi, je ressens dans le café, c'est ce côté nervosité que je déteste, justement. Étant déjà hyperactif, le moindre café, ça me stresse, ça me crispe. Et donc, je m'étais dit, bah oui, il faut réussir à faire quelque chose, mais va pas falloir utiliser justement le chanvre. Va falloir faire quelque chose avec, bah voilà, de l'isolat de CBD, trouver un système avec des terpènes qui vont ouvrir le récepteur, qui vont permettre au CBD d'agir. Et ce qui fait qu'on a réussi à trouver, on va arriver sur le marché dans quelques temps avec ça, là, dans pas longtemps, dans moins d'une paire de mois, un café qui permet d'avoir un café qui te réveille, tout en étant, comme on dit, focus. Puisque t'as pas cet effet stress. La personne qui l'a essayé en premier, c'est le propriétaire de la finca, celui qui fait le café. Il est pas consommateur de cannabis du tout. Il a fumé quand il était jeune. Et lui, il a voulu qu'on se mette à ça parce que on se connaissait, il savait ce que je faisais avec les abeilles, il faisait du miel à leur finca, il voulait que je travaille avec eux. Et à la base, je m'étais dit faire un miel chez eux, waouh, ouais, ça serait bien. Puis j'ai réfléchi au café, et je savais que son café, il était formidable, il a des parfums un peu fruités, ça change parce que on est habitué tellement, le café, c'est un peu comme, le cannabis, pendant très longtemps, on fumait juste du hashish. On connaissait pas la weed, la bonne weed, avec les parfums et compagnie. On fumait le commun. Le commun, c'est le hashish. Et ben, le café, c'est pareil. On a le café commun. Et puis, il y a quelques bons cafés ou quelques cafés très, très bons qui sont faits par les petits producteurs. C'est comme le champagne. C'est pareil. Et donc, le fait d'avoir allié du CBD et du café qui a un taux de caféine qui est juste équilibré comme il faut, d'avoir un CBD pur, d'avoir des terpènes de limonène, ça fait que tu bois ton café, ça te réveille et t'es focus, ni plus ni moins. Il n'y a pas ce côté stressant.
Oui, c'est un peu tachycardie, le cœur qui
ouais, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ouais. Alors que par contre, quand j'avais vu des essais avec du chanvre, ni plus ni moins mis dedans, bah, déjà, si tu mets pas de lait, il n'y a pas les principes actifs qui vont passer et on se retrouve avec du chanvre qui va pas être décarboxylé. Donc, c'est des variétés acides. Donc, on n'a encore pas les mêmes effets. Même si pour le médical, il y a beaucoup d'effets qui sont meilleurs acides. On découvre à l'heure actuelle les dernières découvertes qui arrivent en ce moment, c'est principalement sur les versions acides des cannabinoïdes, pour le côté médical. Mais pour le café, là, on a réussi à trouver un équilibre avec ce café-là qui est vraiment très, 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 très bien.
Moi, écoute, bravo. Et en plus,
café, plus que ça, qui était vraiment, tu sais, pas anti-café, puisque pour moi, je le considérais comme un surplus, quoi. C'est comme dire, ouais. Je sais pas, enfin, c'était, j'en avais pas besoin, quoi. J'en ai jamais besoin. Et donc, d'avoir ça, d'avoir cet équilibre, trouver cet équilibre, lui, au bout de la deuxième journée, quand il m'a dit ça, il me rappelle, il me fait, oh, c'est formidable. C'est le voilà focus. C'est le mot qu'il a trouvé. Écoute, tout de suite. Ça me rend bravo, focus.
Bravo. Oui. Et en plus, tu le vends très bien. Ça m'a trop donné envie d'essayer. Moi non plus, que c'est pas très.
Arrête, on n'a pas commencé encore. Attends. Et on n'a pas encore commencé. Alors, on va se trouver des. Parce que le mot focus. Écoute, c'est le mot qui nous est revenu à tous les deux et vraiment le plus qui est. C'est ça. Trouver un truc et comme il dit, c'est la meilleure définition que je pouvais en avoir. C'est ça. C'est focus. Parce que ça l'a mis bien pour travailler, réveiller, pas l'esprit, avec l'esprit alerte, quoi, pas à partir à 100 à l'heure. Alors, comme j'ai dit, moi, je vais essayer, mais peut-être avec des doses plus fortes de CBD pour moi et moins de caféine, parce qu'avec mon hyperactivité, ça risque d'être dur. Mais c'est vrai que ça va être un petit produit assez intéressant. Puis c'est quelqu'un qui travaille déjà quand même avec des personnes assez intéressantes. Il est placé dans beaucoup d'ambassades. C'est un café vraiment d'exception qu'il a. Donc, on a essayé de faire quelque chose de très, très bien, on voulait pas faire non plus voilà, juste mélanger du chanvre pour se retrouver à vendre un produit à tout va, sans expliquer aux gens, sans avoir un résultat, en mélangeant ça n'importe comment, quoi. On a essayé de trouver un truc qui va bien.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes les infos que tu nous as données. Ça a été très dense. On est parti un peu partout, mais ça valait vraiment, 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 vraiment le coup.
C'est le problème de l'hyperactivité, comme je t'ai dit au début. Hein. Ça part dans tous les sens.
Non, je trouve que c'est pas le problème. C'est pas un problème. Franchement, c'est aussi ça qui fait que qu'on a atteint des sujets sur lesquels on aurait dont on n'aurait jamais parlé si on s'était maintenu à la structure de base, enfin de base, tu vois, qui était prévue. Non, donc franchement, c'était assez incroyable. Je pense qu'on va se refaire un épisode du coup sur d'autres sujets. On voulait parler un peu de la culture aussi, sur la qualité des sols.
Ah oui, bah ça oui, parce que ça c'est des domaines. Bah après sur les réseaux sociaux, les gens peuvent me poser des questions et autres. Hein. J'ai pas l'habitude de répondre. Hein. Quand je vois, quand je réponds pas dans la journée, puisque je peux pas être non plus partout. Hein. J'ai des questions partout. Enfin, j'en ai très régulièrement. Mais donc, je réponds. J'essaye de répondre le plus possible. Évidemment, aux questions les plus simples comme « Est-ce que tu vends ton miel de cannabis, ton cannabinoïde ?» La réponse est toujours la même. Je ne peux pas le vendre. Déjà, de une, parce que la production est faible, trop faible. De deux, parce que la législation fait qu'il est souvent au-dessus de 0,3 et donc je ne peux pas. Donc, voilà. Ça, c'est la première, c'est la seule chose, on va dire, la question qu'on me pose régulièrement et à laquelle j'ai arrêté de répondre en message, puisque des questions comme ça, j'en reçois une dizaine par jour, au minimum, sur est-ce que tu le vends. Donc ça, j'ai arrêté de répondre, mais par contre.
Il faut que tu mettes une réponse automatique.
Ouais, c'est ce que je peux faire. J'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas. C'est vrai que je devrais. Ça serait plus simple. Mais en général, je réponds surtout quand c'est des problèmes, que ce soit médicaux ou autres, quand les gens veulent des renseignements, j'essaye de. Quand je peux, je réponds. Et quand c'est un domaine où je peux répondre, je réponds. Quand c'est quelque chose que je connais pas, je le dis. Mais quand c'est quelque chose que je peux répondre, je le dis aussi. Donc je le fais. Donc.
Et bah bravo. Tu nous as donné des super sources au début. Tout sera dans la description de l'épisode. Donc
les profils de tes réseaux sociaux. Si tu as besoin d'autres sources justement qui te refont pour toi mettre en lien, j'ai tout, il suffit de me le dire, puis je t'envoie ça.
J'hésiterai pas, ouais, carrément. Et je sais que tu donnes aussi des conférences.
Oui, je fais des conférences. Alors, je fais des conférences principalement sur l'apiculture et le cannabis. J'ai aussi des conférences justement sur le sol, le redox. Le redox, c'est en fait les gens ont tendance à cultiver beaucoup en utilisant le pH qui va réguler un peu l'acidité du sol et autres, mais il y a d'autres choses à prendre en compte. Enfin, ça, c'est des.
On en reparlera dans le prochain épisode. Je pense
c'est
que
des nouvelles choses à découvrir aussi.
Le mot est là, ceux qui sont intéressés pour en apprendre plus ou pour même le découvrir, parce que de ce que j'ai compris, c'est assez incroyable. On en reparlera la prochaine fois, donc le Redox. Alors toi, habitué des conférences, je te laisse le mot de la fin pour conclure ça.
Si j'avais un mot pour dire à propos du cannabis, je vais dire qu'une seule chose. Les gens qui n'aiment pas le cannabis ne vont pas aimer l'avenir.
Parfait, merci beaucoup.
De rien.
Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde, ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.